Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
La vie, c'est des opportunités en permanence. C'est juste qu'il faut... L'optimisme, c'est ça. C'est savoir se délester, parfois, de nos fardeaux et se connaître, en fait. Se connaître en se disant, j'ai une opportunité, j'y vais, je tente.
C'est le 100e épisode de Nouvel Œil. Et pour l'occasion, on l'a enregistré avec vous, en direct. Catherine Testa est la fondatrice de L'Optimisme. Elle est l'invitée 40 du podcast et surtout, c'est celle qui a écrit la préface de mon livre, Ce qu'on n'apprend pas à l'école. Alors quand j'ai réfléchi à qui inviter pour ce 100e épisode, c'est paru assez évident que ce soit Catherine, parce que c'est un peu comme une marraine pour moi. Elle est de ces coups de cœur personnels qui donnent l'élan pour continuer et pour avancer. Cet épisode est plus une discussion qu'une interview, je prends davantage la parole que d'habitude et vous posez aussi vos questions. Alors avec Catherine Testa, on échange sur l'importance d'oser, d'être soi, et sur ce qu'est avoir 20 ans aujourd'hui. Merci à Sub2Com pour leur accueil, à celles et ceux qui étaient là, et merci à toi qui écoutes ce podcast, et pour tout l'amour que tu pourras porter au monde. Bonjour à tous, bonjour à Catherine Testa.
Bonjour Victoria, bonjour à tous.
Aujourd'hui, on n'est pas que toutes les deux, on est avec du public dans le campus de Sub2Com à Paris, le sponsor du podcast, pour enregistrer le 100e épisode de Nouvel Œil.
Ça me paraît incroyable.
C'est fou. Et Catherine Testa a suivi l'évolution du podcast parce que ça a été une des invitées, je dirais, au milieu du podcast. On essayait de se rappeler de quand est-ce qu'en fait on avait enregistré l'épisode et on ne sait pas.
Alors visiblement, j'étais aux alentours de la 40e.
Ouais, je crois.
Il paraît, mais du coup, ça veut dire que tu en as enregistré depuis 60.
Non, mais ouais. À une par semaine, ça va vite.
Ouais.
Mais surtout, Catherine, elle a écrit la préface de mon livre, Ce qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, elle a vraiment suivi l'évolution de A à Z et je suis très heureuse de pouvoir la recevoir à nouveau aujourd'hui. Donc, ça va être un format un peu plus particulier que ceux que vous avez l'habitude d'entendre, puisque ça ne sera pas une interview dans un seul sens, mais ça sera vraiment une vraie discussion entre nous deux autour de cette fameuse question de ce que c'est que de grandir dans un monde qui bouge. Mmh. Voilà, et vous allez toutes et tous être invités à participer aussi si vous avez des questions à nous poser. Donc vous allez pouvoir prendre le micro à votre tour, le fameux micro jeune. Mais pour commencer, je pense que Catherine, tout le monde ne te connaît pas. Mmh. Donc si en quelques mots, tu peux nous dire ce que tu fais, je te laisse la parole.
Alors peut-être pour les auditeurs, déjà expliquer qu'on est dans une salle, donc s'il y a des bruits de fond, c'est tout simplement qu'il y a des chaises qui parfois peuvent grincer. Non mais c'est important de le dire et de le contextualiser pour ceux qui ne nous voient pas en direct. Alors je m'appelle Catherine Testa, je suis la fondatrice de L'Optimisme, qui est un projet qui vise à partager des initiatives positives dans la société. On est une petite équipe aujourd'hui et on partage beaucoup de contenu où on a envie de mettre en avant ceux qui s'engagent peut-être pour avoir confiance dans l'avenir et puis pour donner aux plus jeunes confiance à l'avenir, avec cette notion que l'optimisme, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. On va justement en parler de grandir dans un monde qui bouge, dans un monde incertain. L'optimisme, on a presque l'impression que c'est de la naïveté aujourd'hui. En réalité, tous les plus grands pessimistes se doivent d'être optimistes pour agir, en fait. Tous ceux qui ont connaissance des conséquences possibles dans différents domaines, dans celui de l'écologie, du développement durable, mais au-delà de ça, dans le domaine social et autres, on peut se dire, ah là là, comment est-ce qu'on peut être optimiste ? En fait, l'optimisme, c'est un prérequis à l'action et c'est vraiment le message que j'avais tenté de faire passer au 40e épisode ou quelque chose comme ça et que j'aimerais faire passer encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est suivi par plus d'un million de personnes. Quand même.
C'est fou.
C'est incroyable.
Fou. Une belle évolution aussi de l'optimisme. Et comment pour toi, être optimiste, c'est un levier pour changer le monde, justement ?
En fait, c'est le prérequis à toute action. C'est-à-dire que personne ne va s'engager dans la vie sur un sujet personnel. On ne va pas se mettre en couple et se marier quand on connaît le nombre de divorces factuellement. On ne va pas se... Mais c'est une réalité. On ne va pas se mettre... On ne va pas aller sur un terrain de tennis en se disant mais risque de perdre le match. On se dit bah oui, mais aussi potentiel de gagner. Et c'est la même chose. Quand on est jeune, quand t'as été... Voilà, quand on a envie de s'engager pour une cause, qu'elle soit, encore une fois, une cause sociale, écologique, enfin, peu importe notre envie, notre sujet, ce qui fait sens pour nous, eh ben c'est un levier. Et j'imagine, enfin, quand tu as démarré, c'est ça. Tu as eu besoin d'optimisme parce que l'optimisme, c'est dire à tous ses proches que non, on ne va pas suivre un cursus classique, par exemple. C'est se découvrir.
Et c'est un levier aussi, je pense, pour faire barrière aux peurs. Quoi. Quand on y va avec un élan positif et optimiste, il y a beaucoup de freins qui se lèvent. Et je vais revenir sur ces questions-là qu'on peut se poser quand on avait 20 ans et faire le parallèle avec ce que tu as écrit justement dans la préface de mon livre où tu disais « Une fois que vous refermez son livre, vous vous interrogez. Que faisiez-vous à 20 ans ?» Et ça t'a invité à te replonger à ton toi quand tu avais 20 ans. Alors, quelles étaient tes émotions? Quelles étaient ces questions que tu te posais quand tu avais 20 ans?
Moi, je me dis que je suis la génération chanceuse. Je suis celle qui se disait que c'était trop cool de voyager partout dans le monde, qui se disait « je vais aller au bar tous les week-ends, c'est ça la vie ». Et c'est cette indolence, cette joie que votre génération ne doit absolument pas perdre. La petite joie du quotidien, en fait, les rencontres du quotidien, les échanges du quotidien, mais j'avais une dose d'insouciance, en fait, que toi, tu n'as pas eu, je crois. Tu n'as pas eu cette frontière de te dire « Ok, là, je vis une zone d'exaltation, je vais m'amuser, la vie, ça va être chouette, je vais voyager, je vais peut-être faire un peu n'importe quoi, mais c'est cool ». Et je me suis rendu compte à quel point j'étais naïve à mes 20 ans et à quel point tu as été non naïve. Et je me suis demandé si j'avais eu de la chance ou pas d'avoir vécu ça. En l'occurrence, et je crois que toute la génération des 30, 35, 40 aujourd'hui, bah, ma génération, est en train de se dire « Mon Dieu, moi j'ai cramé la planète en me disant que c'était trop cool et ça faisait bien de voyager partout dans le monde. Hein. » C'était chouette et maintenant je m'en veux un petit peu, mais en même temps, j'en ai profité. Et c'est aussi ça, les jeunes qui me disent aussi qu'ils doivent se dire bah, « Faut aussi que nous on découvre, nous c'est on n'a pas découvert. »
Et du coup, nous, on est un peu déchirés entre ces deux discours à se dire, nous aussi on veut profiter, nous aussi il faut qu'on s'adapte à ce monde-là, et puis on veut consommer parce qu'on nous a toujours dit que consommer c'était ce qui rendait heureux, et en même temps on a cette prise de conscience qui tue cette insouciance que tu pouvais avoir, ou finalement comment on se positionne quand il faut protéger la planète, et en même temps il faut s'insérer dans ce monde-là. Et tu as fait un parallèle assez intéressant dans la préface justement du livre où tu disais, mais tout part finalement de cette quête de sens. Et aujourd'hui, nous, quand on avait 20 ans, certes, on consommait, certes, on profitait de plein gré de tous les bonheurs que pouvait apporter tout ça. Mais en réalité, on a perdu du temps parce qu'aujourd'hui, tu observes autour de toi plein de burn-out de personnes qui finalement se posent la question du sens aujourd'hui à 40 ans, que nous, on se pose peut-être plus jeunes maintenant.
C'est exactement ça, en fait. La réalité, c'est que je me disais, les pauvres, ils n'en profitent pas comme nous, on en a profité. Ouais. Sauf que vous n'allez peut-être pas avoir ce sentiment un peu déconfit à 40 ans de se dire, OK, alors j'ai tout coché, tout ce qu'on m'avait dit qu'il fallait bien faire. Hein. J'ai eu mon accès à la propriété, j'ai eu mes enfants, j'ai eu mon chat. Tu vois, cette notion de parcours tout tracé en se disant, OK, maintenant, mais est-ce que je fais ce pour quoi je suis fait, en fait. Ce questionnement de quelle est ma cause, en fait. Et soit on se le dit assez tôt, et dans cette cause, bah, on se permet des choses, en fait, parce qu'on ne peut pas ne pas s'autoriser à vivre, parce que ce tiraillement dont tu parles, j'ose même pas imaginer ce que c'est dans la tête, et cette notion d'éco-anxiété qui va arriver dans votre tête, parce que vous êtes beaucoup plus conscient que nous, en l'occurrence, et ce tiraillement de se dire, bah oui, mais là, je ne fais pas bien, bah oui, mais en même temps, il faut aussi que je me fasse plaisir. Et c'est cette notion de plaisir, de joie et d'enthousiasme qui est importante, parce que bah, forcément, hein, quand on est heureux dans de la simplicité, on consomme moins. C'est bête et méchant, mais...
Clairement, c'est tellement relié.
Le bonheur vient aussi, enfin, quand on consomme et quand on surjoue, c'est généralement qu'on ne s'est pas découvert. Quand on se déguise en se disant « faut que je sois parfait au quotidien », c'est qu'on n'a pas accepté sa propre vulnérabilité. Et la notion aussi, c'est de se dire « ok, de toute façon, je suis vulnérable, je ne ferai jamais parfait dans tous mes domaines, ouais. Par contre, je peux faire des choses ».
Mais alors toi, comment tu as appris à te découvrir? À quel âge tu as commencé à te poser ces questions un peu existentielles? Est-ce que déjà très jeune, tu faisais face à ces questions-là ou pas du tout?
Alors, pas du tout. Très jeune, je trouvais tout... Enfin, mais quand j'étais enfant, je me disais, c'est pas possible, les gens, ils ont rien compris à la vie. C'était ma phrase, hein, mais ça paraît un peu, tu sais, l'adolescente, mais en me disant, les gens, ils ont rien compris à la vie. Ouais. J'ai répété ça, mais je m'en étais pas rendu compte. Hein. Et j'ai vécu un parcours classique, école, etc., etc. Et puis, j'ai commencé à travailler donc, aux États-Unis en faisant des allers-retours entre Paris, New York, San Francisco, la Chine. Hein. J'étais sympa d'un point de vue bilan carbone et je travaillais dans le domaine du développement durable. Donc, t'imagines le paradoxe avec... Et c'est terrible ce que je vais dire, mais c'était ça, à mon époque, je me disais, au moins, dans mon métier, je sauve la planète.
C'est ce que tu disais.
Voilà, donc je cramais la planète en me disant, enfin voilà, avec cette sorte de bonne conscience que j'ai, parce que j'en avais conscience, comme je suis diplômée dans le domaine du...
Et tu te disais, c'est bon, c'est pour le développement durable, j'ai le droit.
Exactement, j'ai le droit, et on se trouve des bons prétextes, hein, on est tous très forts. Et en fait, j'ai commencé à me découvrir du jour où je suis partie toute seule aux États-Unis, sans connaître personne, et après en Espagne, c'est un peu la même chose, où je me suis dit, ok, là je suis toute seule, je peux me réinventer, je peux devenir qui j'ai envie de devenir. Mmh. Et ça, je vous invite, vous êtes jeune, et je vous invite peut-être demain à vous le rappeler, on peut toujours se réinventer et se recréer des parcours de vie différentes. C'est-à-dire que moi, dans mon ancien parcours, j'étais entourée de scientifiques. Enfin, j'ai envie de te dire que tout le monde se disait qu'on allait dans le mur. Hein. Mais en plus, on contribuait à aller dans le mur. Donc, on était dans une sorte de schizophrénie absolument la plus totale. Ouais. Et quand je suis partie... Alors, c'est plutôt... Aux États-Unis, j'ai commencé à me plonger dans des livres, en fait, en permanence. Voilà, je me disais, tiens, c'est marrant, en fait, tout ce que... Quand mes copains... français me disait, mais c'est parce que t'es perché, pourquoi tu parles de bien-être? Et pour moi, c'était vraiment une vision holistique de la société. Je me disais, c'est pas possible, il n'y a pas le choix, en fait, tout est relié. Et personne ne comprenait pourquoi je pensais que c'était relié. Et donc, c'est la solitude qui m'a permis, en fait, d'explorer ce que j'avais envie de devenir. Et ça, on a toujours la possibilité de devenir ce qu'on veut devenir. On peut l'avoir à 25 ans, à 20 ans, à 40 ans, mais ça peut être de plus en plus difficile parce qu'il y a des biais, en fait, quand on a investi tellement de temps à être avec son compagnon, sa compagne, quand on a investi dans un appartement, quand on a investi tout ça, en fait, il faut déconstruire. Et naturellement, notre cerveau n'est pas fait pour le changement. Et ce qu'on a acquis, on a du mal à ne plus... à s'en séparer, sauf si on se dit mais ça n'a aucun sens. Moi, à un moment donné, je me suis dit ok, j'avais coché toutes les bonnes cases avant 30 ans. Je me suis dit ok, c'est pas du tout ça. Et du coup, j'ai eu aucun problème à me démunir. C'est Saint-Exupéry qui disait la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever, en fait.
Mais du coup, t'as tout enlevé et tu savais quelle était l'étape d'après?
Alors pas du tout.
Donc comment tu t'es positionnée par rapport à ce vide-là?
J'avais des... En fait, pour moi, j'avais une évidence. Alors, c'est peut-être pareil pour toi et le podcast Nouvel Oeil. Moi, j'avais une urgence, en fait.
Ouais, c'est vraiment une forme d'urgence.
Tu vois, il y avait une urgence et je me disais, c'est incroyable, personne ne crée un média qui parle de choses positives. Et tout le monde, en parallèle, tous mes potes me disaient, mais j'en ai marre de lire des médias négatifs, j'en ai marre de voir que ce qui ne va pas, j'en ai marre de ces biais, en fait, de négativité. Et donc, ça me paraissait évident que quelqu'un allait le faire. Et comme j'ai vu à un moment donné que plus personne ne le faisait et ne s'engageait là-dedans, je me suis mise à créer un média. Et c'est ça aussi un des messages, c'est qu'on peut venir... je suis chimiste à la base, puis développement durable, et j'ai fini par créer des médias et faire de la communication. Donc, en fait, on peut se réinventer sur tout le long d'une vie. En fait, quand on a une cause, quand on a un projet... Comme toi, t'es pas née podcasteuse.
Pas du tout. Et moi aussi, j'ai fait des sciences. Moi aussi, j'ai fait un bac scientifique. J'ai avancé sans savoir ce que je voulais faire. Mais moi, ça a été vraiment une forme d'urgence aussi, comme toi, tu vois. Et tu parlais de solitude, et ça c'est une question que je me pose aussi, de me dire est-ce que c'est forcément dans la solitude qu'on arrive à trouver qui on est profondément? Parce que moi typiquement c'est vraiment ça, ces moments-là privilégiés avec moi-même qui m'ont permis de ressentir les choix les plus justes.
T'étais partie en voyage toi aussi?
J'étais partie en voyage en Inde, donc ça a été un gros déclic de me dire voilà, je me retrouve dans les bidonvilles et je suis confrontée à une autre réalité que celle qu'on me présente en France. Et donc forcément à 18 ans on rentre et on se dit mais what, on m'a toujours dit que le bonheur, la réussite c'était juste briller et accumuler toujours plus de biens matériels. Là, j'étais entourée de personnes qui n'avaient rien de tout ça, qui avaient juste des sourires jusqu'aux oreilles et de l'amour à revendre. Et je me suis dit, ok, y a peut-être un bug dans nos modes de vie occidentaux.
Et c'est ça qui est très perturbant, parce que finalement, on se dit, non, il ne faut pas prendre des longs courriers parce que ça flingue la planète. Globalement, c'est un long courrier maximum par an si on est vraiment en totale sobriété ailleurs. Mais on se dit que finalement, le voyage, alors même s'il y a d'autres types de voyages que le long courrier, ça nous permet de découvrir d'autres réalités, d'autres cultures, en fait. Moi, je donne cet exemple que je donnais, je crois, dans mon premier bouquin, que j'avais sûrement donné dans ton podcast, c'est que je me retrouve à New York sur un building, je me suis déguisée parce que, vous voyez, moi, je suis toujours très simple. Et je me suis vraiment déguisée. J'ai mis les chaussures à haut talon. Et je me retrouve dans ce rooftop où on regarde un peu les gens de haut, où c'est que du business, où on est étiqueté par rapport à notre métier. Et, et je me suis demandé si... j'étais venue en chaussures, en tennis à l'événement. J'avais les tennis dans mon sac et je me suis demandé si tous ces gens croyaient à l'histoire ou si eux aussi, ils avaient des tennis et ils étaient déguisés, en fait. Mais ça a été une sorte de moment de dissonance totale en me disant « mais je suis dans un personnage ». Et je pense que ça, ça m'a fait un déclic. Et comme j'étais toute seule, je pouvais réinventer qui je voulais être. Donc à New York, ça a vraiment été une sorte de révélation d'introspection. Comme la tienne, en fait. Parce qu'en plus, on était vraiment aux opposés. Moi, à New York, c'était tout en grandiose. Dès que tu rencontres quelqu'un, t'es son meilleur ami et il te dit que t'es amazing et fantastique.
En fait, c'était le summum de ce qu'on pourrait nous présenter comme la réussite.
Exactement. Et c'était ça, en fait. Et en plus, moi, j'avais jamais rêvé d'aller à New York. C'est-à-dire que c'était le hasard qui m'avait amené à New York quand des gens fantasmaient New York. Et je vivais dans l'Upper East Side et je bossais sur la 5e avenue en face de l'Empire State Building. Donc, tu vois, vraiment, tout était parfait dans un décor idéal. Et je dit mais non, c'est pas mon chemin, en fait. Mon chemin, c'était que j'avais envie d'explorer, j'avais envie d'apprendre et j'avais ce goût de la joie, en fait. Je voulais pas perdre cette joie de vivre et je me suis dit que si j'étais dans le développement durable, je devenais complètement schizophrénique, en fait, dans ce cas-là, avec deux, enfin voilà, ça allait pas. Et donc à un moment donné, donc je suis revenue en fait, en France, et je suis repartie toute seule en Espagne, là. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient complètement ce qu'on appelle perché, en fait. Mais pour moi, être perché, c'est juste être différent, en fait. C'est juste être soi, en fait. Et comme tu dis, quand tu rencontres des gens qui sont différents, tu te dis qu'ils sont merveilleux, en fait, tu vois. Parce qu'ils osent être eux-mêmes et parce que chacun a une histoire incroyable à raconter. Et c'est vrai, on est dans une culture aussi où on se sent petit si jamais on n'est pas dirigeant d'une entreprise. Moi, j'ai des journalistes qui me disent « je suis que journaliste », des dirigeants qui me disent « je ne suis que dirigeant », des salariés qui me disent « je ne suis que salarié », mais on est avant tout un humain et on est avant tout absolument incroyable.
Mais on
nous
fait croire qu'on va exister en fonction des étiquettes que les gens vont pouvoir nous mettre dessus. Je vais exister quand j'aurai décroché un poste de commercial chez Carrefour, chez McDo, parce que c'est une grande entreprise.
Et tu mets le costume qui va avec, et c'est ça qui est marrant. Un jour, j'avais quelqu'un qui m'avait dit « les gens en costard qui bossent dans les multinationales, généralement, bossent pour des gens en chemise à fleurs ». Tu regardes aux États-Unis, tu vois, t'as toujours quand tu prends le patron de Facebook, tu sais, il a juste son t-shirt parce que t'as plus rien à prouver, en fait. Donc t'as plus besoin de ce déguisement. Alors tu endosses le costume de l'autre, hein, tu endosses le costume de patron, mais c'est différent.
Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que t'as aussi remarqué? Je sais que quand j'ai commencé à m'accepter telle que je suis, et à arrêter de vouloir coller à ce que les autres voulaient pour moi, mais à faire des choses qui me passionnent profondément et qui m'animent, en fait, j'ai porté tellement moins d'attention à l'apparence et en fait, de comment m'habiller ici. Et ça, c'est là que j'ai commencé par m'habiller dans le grenier de mamie. C'est là que j'ai commencé par arrêter de m'entourer d'amis qui n'en sont pas. Et finalement, tu vois, voilà, tu parlais de Mark Zuckerberg qui s'habille avec un simple t-shirt. Enfin, est-ce que toi aussi, ça s'est répercuté, cette prise de conscience sur sa façon de s'habiller?
Alors, c'est terrible parce que quand vous allez vivre des changements de vie, parce qu'on va tous en vivre, tout d'un coup, vous allez devoir mettre généralement au grenier certains amis et en fait moi je me pilote beaucoup à l'énergie, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai arrêté de me déguiser parce que de toute façon ça me faisait mal aux pieds les 12 centimètres hein, et puis je suis mais il y a des gens qui marchent très bien hein. Moi j'ai des potes elles gambadent dans les aéroports, tu sais, avec les énormes valises sur des 12 centimètres. Ça, j'ai pas compris, c'est pas ma carnation, mais c'est la carnation de certaines personnes, donc tout va bien. C'était juste que c'était pas la mienne. Et en fait, je me suis beaucoup pilotée à l'énergie. Tu sais, c'est ces notions de soirée, tu vas à une soirée, est-ce que t'en ressortes avec plus d'énergie ou avec moins d'énergie après? Et ça peut être super violent parce que quand tu deviens toi, tu vois, quand tu deviens authentique en te disant je laisse tomber mon paraître, mon machin, de toute façon, j'ai rien à prouver à personne, j'essaie de faire ce que j'ai envie de faire, et à un moment donné, finalement, tu deviens authentique et tout d'un coup, tu rencontres des gens qui sont comme toi, qui sont pas dans le paraître. Et du coup, tu as des conversations hyper profondes en 3 minutes. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec certains, toi, de certaines personnalités dans la salle aujourd'hui, où en bout de 3 minutes, tu te dis, OK, il n'y a pas de paraître. Il y a des vrais sujets, en fait. Mais c'est une réalité parce qu'il n'y a pas de faux semblants. Et du coup, toutes ces conversations avec tes potes qui sont en train de t'expliquer comment est-ce qu'on fait.
Ça
colle plus. Mais c'est très difficile parce qu'on est des instincts. Enfin, on a un instinct grégaire, on aime faire partie d'un groupe, et au démarrage, on se dit, mais est-ce que c'est moi l'élément en décalage ? Est-ce que je suis complètement en décalage, en fait ? Et c'est pour ça que la notion de solitude, ça nous permet de nous révéler. Mmh. Et si un jour, dans votre vie, vous vous rendez compte que vous avez moins d'énergie, prenez le temps, en fait, de faire un point. C'est mal vu dans la société, mais genre, on fait rien.
Tu perds ton temps, mais il faut être productif là. Oh, tu fais quoi?
C'est ça, mais faire un point d'étape, que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an, ça nous permet derrière de se dire, OK, je vais vers ce que j'ai envie d'être et personne ne sera vous-même à votre place. Donc c'est pour ça que l'authenticité, c'est quelque chose d'hyper important.
Mais c'est vrai que c'est hyper inconfortable parce que là, nous, toutes les deux, avec le recul, on peut se rendre compte du chemin qui a été fait et du coup se dire que c'était la bonne option. Mais quand on est la tête dans le guidon et qu'on voit effectivement que tout le monde nous renvoie cette différence, même ceux que on pensait être nos amis, donc avec des guillemets les amis, qui nous disent mais t'es plus la même et si et ça et machin et tu viens plus ici, et donc forcément on se remet en question, on se dit mais alors c'est moi le problème, en fait c'est moi qui suis plus normale, c'est moi qui et on a tendance à du coup vouloir brosser cette différence et à dire OK, il faut que je revienne comme avant pour être comme tout le monde parce que là je vais perdre tous mes amis. Et ça demande quand même une forme de courage immense que de se dire non, je veux plus de tout ça, je veux être moi-même, et pour autant je sais pas où j'avance, mais j'avance quand même, quoi.
Ça demande de rencontrer d'autres personnes aussi. Ça demande de se dire tiens, par exemple, si on est passionné de musique, quand on était gamin on nous a dit non, la musique c'est pas intéressant dans la vie, ça sert à rien. C'est la même chose pour le dessin, même chose pour 90% de certaines activités que la société ne valorise pas, parce que nous on est des purs produits, il fallait faire maths à l'époque là quand j'étais enfant, et donc on a pu tuer complètement nos talents en se disant bon non, je me sentais bonne là-dedans, mais non, de toute façon c'est pas important, et d'aller le retrouver en fait, et d'aller se dire bon tiens, je vais rencontrer d'autres créatifs. Mais à partir du moment où tu rencontres des artistes, moi j'ai des artistes autour de moi, ils foutent rien de leur vie parce qu'ils attendent la créativité pour faire quelque chose, et eux on leur en veut pas, tu vois. Et c'est toujours une notion de perspective. On a une question, donc on va demander à
je crois que c'est Mélique, non? Est-ce que je me suis trompée? Non? Mostafa, pardon, je suis désolée.
Petite question rapide. Comment expliquer que la solitude soit aussi mal vue, et ce depuis tout petit?
Merci pour ta question. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions.
C'est une super question. Alors déjà, on est des animaux, on a un instinct grégaire. En fait, on est censé être dans le troupeau pour notre survie. En fait, tu regardes, quand tu regardes ne serait-ce qu'un troupeau, c'est terrible de dire ça comme ça, mais quand tu regardes un troupeau de mammifères, celui qui est en danger, c'est celui qui n'est pas avec le troupeau. Donc c'est de l'instinct. Et c'est mal vu de la société, sauf pour certaines professions. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours décaler le regard. Ça te paraît complètement normal, l'artiste qui te dit qu'il réfléchit, l'auteur qui écrit tout seul. Mais pour les autres, c'est pas normal, mais c'est la même chose. Tu rentres dans un bureau dérangé. Quelqu'un, tu vas dire, il prend pas soin de son appartement. Un artiste, c'est un artiste. Tu sais, et c'est toujours de décaler le regard en se disant, mais il y a des personnalités, moi je suis une introvertie de nature, donc autant je passe ma vie à faire des conférences, autant à un moment donné je fais off et il n'y a plus personne qui peut rentrer dans mon périmètre parce que j'en ai besoin intrinsèquement. Et à partir du moment où toi tu l'acceptes, tu le fais accepter aux autres, mais c'est dire non parfois à ses potes alors qu'on n'a aucune excuse, c'est juste qu'on ne le sent pas d'y aller. Mais c'est hyper difficile, hein. Mais attends, t'es jamais dispo et puis t'as tous les reproches. Non, c'est que je suis différemment câblée, je suis pas faite pour sortir tous les soirs, j'ai besoin de ma solitude. Mais c'est la même chose, un geek qui passe ses journées devant son ordinateur à geeker, ça paraît normal, mais en vrai il est seul.
Mais il y a aussi des personnes qui attendent qu'on se justifie, si on dit un non ou un oui, ils vont dire alors pourquoi ? Voilà, justifie-toi. Mais parfois, t'as juste envie de dire c'est non, c'est non.
Si vous voulez, je peux vous donner une liste d'excuses à la Prévert que j'ai pu trouver sur les, sur les 15 dernières années. Alors, il y en avait une qui était très pratique, c'était le Covid. C'est le cas contact. qui ne l'a pas fait. Voilà, tous les introvertis, généralement, ont fait le cas contact. Hein. Mais c'est après, à un moment donné, il faut juste dire non parce qu'on ne le sent pas et parce qu'on a besoin de se retrouver. Et, à partir du et là, c'est comme ça aussi que tu fais un sacré tri. En disant, il y a ceux qui comprennent et il y a ceux qui ne comprennent pas. Mais tu parlais des amitiés. Y en a qui reviennent aussi avec le temps parce qu'eux-mêmes ont fait un parcours.
Exactement. Tu c'est des cycles un petit peu aussi. Hein.
C'est des cycles.
Mais ça se fait naturellement. Enfin, ça peut être aussi brutal. Moi, ça a été brutal pour certaines personnes. Mais ça se fait naturellement. En fait, on sent que chacun prend un chemin peut-être différent. Ça ne veut pas dire que dans 5 ou 10 ans, ils se rejoindront. Mais ça laisse la place pour d'autres rencontres qui, comme tu le disais, sont beaucoup plus alignées avec qui on est. En fait, c'est comme si on attirait quelque part les mêmes énergies. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, en rencontrant de nouvelles personnes qui sont dans nos mêmes énergies, il va y avoir des opportunités qui vont se dessiner. Donc, c'est même bien plus large que ça. C'est que ça attire à nous des choses et ça nous fait avancer sur notre chemin en alignement, quoi. C'est assez magique. Hein.
Et c'est pour ça, moi, je parle souvent en termes d'énergie. Alors là-bas, je fais de la physique, chimie, et je sais pas, ça résonne en fait, ça sonne juste ou ça sonne faux. Alors c'est bizarre dit comme ça, ça veut pas dire grand-chose, mais tu le sens en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on se fie assez peu à notre intuition, et parfois on peut ne pas avoir du tout les mêmes idées sur aucun sujet, mais tu sens que l'autre est dans sa propre vérité, donc tu as envie de l'écouter. Parce que tu ne veux pas l'opposer, tu veux juste te dire, ah tiens, c'est quoi ton point de vue et comment moi je me décale de mon point de vue de mon point de vue. Et ça, c'est vraiment aussi un grand message pareil à faire passer à tous ceux qui sont plus jeunes, c'est que quand vous allez faire un changement dans votre vie, hein, que ce soit changement de couple, changement de vie, changement de job, changement de pays, peu importe le changement qui va tout d'un coup venir heurter l'autre, parce que l'autre il va se dire mais attends, t'es plus comme avant, ou alors il va avoir envie de faire ce que toi tu fais mais il va pas avoir le courage, et ben c'est de se dire que c'est normal en fait que vous ayez des oppositions. Moi j'ai des copains qui à 5 ans me disaient mais t'es complètement, qu'est-ce que tu vas, enfin c'est 6 ans, 7 ans même, qu'est-ce que tu vas faire, parler d'optimisme en France, c'est complètement incroyable, mais je comprends pas même de quoi tu parles. 5 ans plus tard, ils sont venus en me disant j'avais pas compris à l'époque. Maintenant, je comprends. Si j'avais compris à l'époque, je serais partie dans ton aventure. Mais c'est ça aussi, c'est aussi d'accepter que soit on soit sur son chemin de vie, c'est dur à dire, et parfois, je sais pas si ça te fait ça, mais t'as envie de convaincre les autres, en plus, en te disant...
C'est une façon de te convaincre toi-même aussi, quoi, parce que forcément, quand... il y a une autre question. Non, je vais juste finir ce que j'étais en train de dire, c'est que, en fait, forcément, quand t'empruntes une route qui n'est pas celle qu'on t'a dit de faire, de prendre, ou qui est hyper incertaine, t'as envie, au fond de toi, t'es convaincu, mais en même temps, la société te renvoie que c'est pas normal, donc t'as besoin qu'on te convainc aussi quelque part, quoi. Donc, après, j'avais une autre question sur les couples, on en parlera après, je t'écoute.
Du coup, déjà, c'est pour préciser que c'était bien l'épisode 40, donc félicitations.
Trop mignon.
Et du coup, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de l'optimisme. Moi, je voulais savoir comment s'est passé votre début entre l'idée et la mise en place et difficultés que vous avez dû rencontrer. Comment ça s'est passé, en fait ?
Wow, alors c'est pareil, c'est une super question et ça va vous donner, parce que je pense que ça s'adapte à tous les projets.
Carrément.
Tu vas me compléter, parce qu'avec le tien, je pense que c'est un peu la même chose.
On va se renvoyer la balle.
Au démarrage, ça me paraissait un besoin sociétal. Je me disais, il y en a besoin, moi j'en ai besoin, et comme personne ne me le donnait, j'ai commencé et ça me faisait plaisir de le faire. Donc il y a toujours sur un projet qu'on va avoir, généralement, on te dit, tous les entrepreneurs vont te dire c'est de l'endurance. C'est de la besogne, parce que passer la phase créative, derrière, y a toute la phase mécanique, tu montes ta boîte, tu structures ton truc, etc.
Les
doutes, les peurs. Donc l'enjeu, c'est déjà de commencer par faire quelque chose qui te plaît, commencer par te dire que les autres, ils vont te renvoyer tous leurs doutes. Tout le monde va te renvoyer ses doutes. Mais enfin, moi, on me disait, mais Catherine, tu retrouveras pas de job. Après, si tu retrouves pas un job, attends, j'ai pas perdu mes neurones d'avant. En vrai, j'ai pas perdu mes compétences d'avant. Pourquoi je ne retrouverai pas de job ? Donc, tout le monde te projette ses propres peurs, mais c'est la peur de l'autre. Mais moi, j'étais un peu un buvard, je prenais tout ce que tout le monde me disait. Et c'est les gens qui t'aiment, en plus, qui viennent te donner leurs conseils. Donc, tu prends tout en permanence, mais de te dire, l'autre, il est dans son chemin de vie, moi, j'ai le mien, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Mon grand conseil à tous ceux qui veulent entreprendre, ça va être d'y aller, en fait. C'est-à-dire on est dans une société où on a beaucoup théorisé. Tu sais, on théorise, on est dans une société du process. Ce fameux test and learn, alors ça sonne très entrepreneur, un peu à la... Voilà, c'est ça. Mais c'est hyper important. Tu fais quelque chose, t'oses le dévoiler. Moi, mon plus grand problème, c'est que je n'osais pas le montrer. J'avais peur que tout le monde se dise comment ça... Enfin, elle passe du développement durable vulnérable à, comment ça s'appelle, à l'optimisme. Eva, qui est aujourd'hui dans la salle, elle a été une des premières avec qui on bosse, elle a été une des premières à qui j'ai montré le site, mais j'ai mis 3 mois à le montrer après à mes potes, à ma famille, je t'en parle même pas. Je disais, j'ai un projet... Je disais j'ai un projet parce que j'avais peur de le montrer. Et l'enjeu c'est cette confrontation à l'autre, parce que on se dit ils vont nous piquer nos idées, mais c'est tellement de taf de faire la chose que, enfin, je veux dire, si t'es pas passionné, ça marchera pas en l'occurrence. Donc ne pas avoir faire des premières étapes, les montrer et en être fier. Moi, j'ai eu du mal à en être fière parce que je me dis, il reste encore un énorme
pas. C'est ça, tu vois toujours ce qu'il reste à faire, en fait. Et tu te rends même plus compte du chemin parcouru. C'est les autres qui te le rappellent de te dire, mais...
100
Ouais, 100
sans... épisodes.
Ouais, bah oui, c'est vrai, mais... On voit toujours ce qu'il reste à faire. Et puis, on se met aussi, je sais pas comment toi tu le ressens, mais forcément, on s'entoure de personnes qui font aussi des choses qui nous paraissent assez incroyables.
Exactement.
Et donc, on voit toujours les projets qui sont encore plus grands. Et finalement, de personnes avec qui... qui nous connaissent depuis toujours et qui vous voient sincèrement l'évolution, ils disent mais regarde ton évolution, et nous on s'en rend même plus compte.
C'est ça.
Et puis il y a toujours ces peurs aussi qui reviennent de temps en temps, de dire ah oui là t'en arrivais là, mais attends dans 2 ans du coup où est-ce que ça va en être, et ça nous suit quelque part, hein.
Alors il y a une très bonne citation, je sais plus qui l'a dit, c'est on surestime toujours ce qu'on peut faire en 3 mois ou 3 ans et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans.
Donc ça, je l'ai vu il y a quelques jours,
ça elle est super, cette citation. Une autre chose que je disais pour que tout le monde me fiche la paix, parce que tout le monde commence à te dire, je sais pas si t'as la même chose, alors est-ce que t'en vis ? Alors tu gagnes combien ? Tu peux te payer ? C'est hyper indélicat comme question, je veux dire, moi, quelqu'un qui bosse dans une grande boîte, alors, il te paye bien ? c'est hyper indélicat, mais tout le monde tout d'un coup vient faire de l'ingérence dans ta vie. Et donc moi, j'avais dit aux autres, je regarde si on pourrait créer un site positif en France. Et du coup, je validais où j'invalidais mon scénario et mon hypothèse, mais dans tous les cas, je gagnais. C'est-à-dire que j'avais essayé, soit je me disais, le marché n'a pas pris, ou je ne suis pas faite pour ça, parce que, par exemple, tu peux avoir des velléités de devenir artiste et au bout de 5 mois, te dire, non mais attends, moi je ne suis pas du tout faite pour être artiste, j'aime pas me vendre, etc. Donc, revenir en arrière. On a une autre question, viens poser ta question. Et je donnerai un troisième exemple, c'est d'oser. J'ai lu il y a 3 jours, je ne sais pas si vous connaissez les cahiers de vacances, et c'était le créateur des cahiers de vacances qui formait son fils, je ne sais pas si tu connais cette histoire, qui formait son fils à aller vendre, en fait, à taper à la porte de vendeur pour aller placer les cahiers de vacances. Et son fils, donc, il le laisse là et puis il revient une demi-heure après en lui disant « Alors, t'as été vendre le cahier ?» Et là, le fils lui dit « Ah bah non, j'avais peur qu'on me mette dehors. » Et là, le père qui répond « Mais t'étais déjà dehors. » Et c'est un peu ça, parfois on n'ose pas aller frapper à la porte, mais c'est la même chose en amour, on n'ose pas aller se dévoiler, mais de toute façon sinon tu vas pas l'avoir. Donc ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant aussi, quand on n'ose pas faire quelque chose, au pire ça marche, et sinon tu reviens à la place où t'étais, et c'est ok.
Dédramatiser quoi.
Tu dédramatises, et tu t'entoures d'autres entrepreneurs qui savent ce que c'est. Aucun entrepreneur, alors à part ceux qui n'ont pas vraiment entrepris, qui ont juste fait du financement spéculatif et autres, tout entrepreneur qui sait ce que c'est que l'entrepreneuriat sait que c'est génial comme parcours, que c'est hyper difficile, que tu as beaucoup de chances de te planter, mais aucun va te juger, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que toi et moi, on s'est rencontrés, mais moi, tous les entrepreneurs, je dis, allez-y, c'est hyper cool. Et entourez-vous de gens qui jamais vont vous juger parce qu'ils savent ce que c'est, en fait. Et on connaît aussi les lois incertaines de l'entrepreneuriat.
Vous venez plus ou moins de répondre à ma question, donc au final, je vais quand même la poser. Quand vous disiez que vous n'osiez pas dire au début à votre famille, à vos proches, etc., que vous étiez en train de montrer un projet comme l'optimisme, est-ce que c'était aussi une façon de se protéger de si jamais ça ne marche pas, au final, on va me le reprocher, par exemple, quand il y a des gens qui se lancent dans un marathon, qui n'arrivent pas à le passer ou qui se blessent, ou dans une nouvelle relation et qu'au final, ça échoue. On leur reproche tout le temps. Est-ce que ce n'est pas une façon, le fait de ne pas dire les choses, d'éviter de trop souffrir pendant l'échec ?
Alors c'est une très bonne question. Moi, c'était pas tant ça, parce que en fait, c'était que je trouvais mon site complètement imparfait. C'est que je suis une perfectionniste dans l'âme, et j'ai encore des trucs sur ma to-do, je pense que Eva pourrait témoigner, qui sont là depuis 2015. Oui. On est en 2022.
Et le site n'était pas créé, il était que dans ma tête, mais je me disais qu'il allait falloir faire ça. 7 ans plus tard, j'ai toujours pas fait. Et quand t'es perfectionniste, t'as peur du jugement de l'autre, en fait. T'as peur de montrer ce que t'as fait. Donc moi, j'avais pas peur de dire que je faisais, en disant, je vais essayer de construire un site, on va voir si ça fonctionne. Donc ça, j'avais passé ce jugement de l'autre comme ça, parce que de toute façon, j'allais dire, attends, non, j'étais pas faite pour ça. Et c'est pour ça, si vous êtes artiste, dites-vous, dites aux autres, je vais regarder si je suis capable d'être artiste. Ça décale complètement le jugement en une phrase, ça change les choses. Et par contre, effectivement, se confronter, mais je pense que tu as dû avoir la même chose quand tu as sorti tes premiers podcasts. Moi, j'avais moins peur de les montrer à des inconnus que de les montrer à mes proches.
Ah, moi, ça m'est totalement arrivé aussi, et c'est rigolo parce que j'en parlais en fait avant cet enregistrement. On a enregistré une vidéo pour Subdecom, donc on est un peu revenu sur mon parcours, etc. Et c'est ce que je disais en fait au début, mes premiers épisodes. Ce qui m'a aidé, c'était une forme d'inconscience, je pense, de me dire. Honnêtement, il va y avoir juste 3 ou 5 personnes qui vont écouter. Et puis, je ne me rendais pas compte vraiment ce que je faisais. C'était comme toi. Moi, ce qui m'animait, c'était cette urgence finalement de faire. C'était quelque chose qui était intrinsèque à moi, de me dire, il faut le faire. Et donc, je le faisais avant tout pour moi, pas pour les autres. Et donc, ça m'a évité plein de questions. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai plus honte de mes premiers épisodes que je pouvais en avoir au début. Où je le faisais parce que c'était naturel, parce que je me suis dit, allez go, on y va, de toute façon j'ai envie de le faire, mais je sais pas comment on pose une question, mais c'est pas grave, je la pose, et si, et ça. Et c'est un peu finalement cet élan d'enfant qu'on a quand on est tout petit, où on sait pas monter sur un vélo, mais on enfourche quand même son vélo. On sait pas marcher sur ses deux mains, mais sur ses deux pieds, mais on enlève quand même les deux mains pour apprendre à marcher. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup aidée, en tout cas.
Alors, moi aussi, hein, et moi, j'avais très, très peur d'écrire. Je suis auteure, donc j'ai écrit plusieurs livres, comme toi.
J'en ai écrit qu'un seul, encore.
Hein. Ouais, mais en fait, j'avais très, très peur de marquer dans le temps quelque chose qui allait rester, qui allait me poursuivre sur mon cycle de vie. Et aujourd'hui, quand je lis mon premier livre, c'est un des best-sellers et tout le monde adore ce livre. Moi, aujourd'hui, j'écrirais plus ça parce que j'ai évolué. Mais c'était très important de le faire à l'époque parce que je serais plus capable de l'écrire de la même façon. Donc, c'est pour ça, cette notion d'imperfection. Moi, c'est comme toi. La dernière fois, je suis retombée sur des articles écrits en 2015. Mais je me suis dit, mais comment on a pu écrire ça, en fait ?
Mais c'est surtout qu'à aucun moment, on va se dire, là, c'est parfait, j'y vais. Non, on ne sera jamais assez satisfait, en fait. Et c'est en faisant que, bah, effectivement, voilà... C'est un premier pas, et petit à petit,
cet accent qui
l'accent du sud-ouest, et c'est petit à petit qu'on évolue, et qu'après des années de recul, on se dit, ah oui, donc en fait, j'étais pas du tout prête, hein, il y a 10 ans, mais je l'ai fait quand même, et je t'écoute.
Merci. Alors, par rapport à ton expérience à New York, quel point commun, différence, tu verrais au niveau de l'optimisme entre l'Amérique et la France ?
Alors, pareil, question hyper intéressante. Merci pour la question.
Ils encouragent beaucoup l'échec là-bas.
Alors, ils encouragent beaucoup l'échec. Alors ça, j'ai presque envie de te dire, c'est presque un mythe. Parce qu'on encourage beaucoup l'échec à SF et à New York. Et c'est vrai que quand tu vis à New York, je vais le préciser, mes collègues me disaient, nous, on est New-Yorkais, on n'est pas Américains. Donc déjà, tu as une différence de culture en fonction de l'endroit où tu vis aux États-Unis. Ça, je trouve ça important de le préciser. On encourage effectivement... l'échec, mais alors pareil, on a l'impression de tomber dans des trucs qu'on a dit et redit, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, moi, si je remonte une boîte, mais il y a tellement d'erreurs que je ne ferai pas, que j'ai fait avant, parce que, bah, effectivement, j'étais pas prête. Et il y a une notion de courbe d'amélioration. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours meilleur la deuxième fois quand on intervient en public, quand on fait un podcast. Voilà, nous, ça nous paraît évident, mais la première fois, on est stressé un petit peu moins la deuxième fois. Et en fait, se dire qu'on a été un débutant, c'est OK. J'avais lu un jour, et je vais répondre à ta question juste après parce que je suis un peu partie dans le décor, mais je vais continuer. Quelqu'un un jour m'a dit, on devient un expert d'un sujet en 10 ans. C'est-à-dire que si demain, vous voulez devenir expert du fémur des momies en Égypte, il vous faudra 10 ans pour devenir un expert international. Mais c'est important de le savoir, parce que c'est cette notion de gérer le temps. On est dans une société de l'immédiateté où on veut tout de suite. Donc déjà, gérer le temps long. Pour revenir à ta question sur l'optimisme, au démarrage, moi je pensais que mes collègues américains se foutaient littéralement de moi, parce que dès que je faisais une micro-action, tout le monde me disait « Ah, that's amazing !» Tu vois, c'était incroyable. Je faisais un tableur Excel dans lequel je mettais des chiffres et mes collègues, ils me disaient « Ah, c'est incroyable, c'est génial ce que tu as fait !» Mais enfin, c'était tellement surjoué, mais c'était leur culture, en fait. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais du décalage de culture. Et c'est vrai que si tu es aux US, sur les plateaux TV, tu verras beaucoup moins de... j'ai presque envie de te dire, de gens théorisés, tu sais, des sociologues, des philosophes, comme nous, on voit en plateau TV, tu vas voir plutôt des entrepreneurs un peu foufous, limite parfois gourous, prendre la parole. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, je sais pas. Par contre, ça nous donne peut-être plus un élan de rebondir. Et pareil, hein, mais ça vient chercher la culture, c'est-à-dire qu'aux US, tu perds ton job, t'es viré. Moi, j'ai des copains qui ont eu ça, ils sont virés dans la journée. Au Canada, c'est la même chose, sauf que tu retrouves plus vite un job. Donc, tu peux te dire que c'est hyper violent, parce que quand tu viens d'une culture française, le matin, arriver au boulot, le soir, te dire que t'as plus de boulot, c'est quand même...
C'est le monde qui s'écroule.
C'est quand même le monde qui s'écroule. Mais du coup, t'as une capacité de rebond, en fait. Donc, c'est pareil. Ça, moi, au démarrage, quand j'étais jeune, je voulais surtout pas avoir de CDI. Je me disais, ça va m'enfermer.
À quel âge tu te disais ça? Parce que c'est exactement la réflexion que je me faisais, moi, au moment de choisir une orientation. Vraiment, penser à un CDI, penser à un métier, à une entreprise qui allait me garder de 8h à 17h, en fait, ça m'angoissait, quoi.
Bah, en fait, c'est quand tu réfléchis à la notion du temps, tu te dis que c'est ce que tu as plus précieux. En fait, tu offres à ta boîte ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, parce que la valeur, on peut la créer. C'est-à-dire que du pognon, tu pourras le créer, en fait, globalement. Tu peux te recréer plein de choses, en fait, des nouvelles fringues, tu peux te les recréer. La seule chose qu'on ne peut pas créer, c'est du temps, en fait, parce que c'est vraiment notre notion limitée. Une fois que tu as conscience de ça, tu commences à voir les choses de façon un peu différente. Ok, à quoi je l'attribue? Pour moi, je m'en étais rendu compte parce que j'avais des copains qui étaient un peu plus âgés et qui bossaient dans des groupes et qui ne vivaient que par leur culture de leur groupe. Ils vivaient, je veux dire, ils mangeaient, presque, ils dormaient la culture de leur groupe, et je m'étais dit, ah, mais surtout pas ça, parce que je voulais voir le monde en transversal. Donc finalement, j'ai toujours bossé dans des réseaux, moi, pour aller à la rencontre de l'autre, mais sans m'en rendre compte, parce que je suis une hyper timide de nature. Là, je suis là, on se rend pas compte, mais si je vais à une conférence, je suis la nana qui rase le mur, qui attend que quelqu'un vienne lui parler, qui va parler avec le serveur, parce que ça va lui donner une contenance, en fait. Donc tu vois, il y a plein de choses hyper contre-intuitives dans mon parcours, mais qui me permettaient de garder finalement un 360, et bah, finalement, avec, on peut avoir tous des faiblesses, parce qu'on est tous imparfaits, hein, pour entreprendre. Finalement, la cause, en fait, vient surpasser. C'est pour ça que cette notion de passion est quelque chose qui me semble important. Et comme toutes les personnes que tu interviewes, tu vois, c'est des passionnés, c'est même s'ils se disent que parfois, c'est fatigant d'être passionné aussi, hein, de temps en temps. Hein.
Oui, et est-ce qu'on est tous faits pour entreprendre aussi? Parce qu'il y a vraiment ce mythe de l'entrepreneuriat en ce moment, mais il y en a aussi qui sont très à l'aise avec le fait d'avoir un CDI et être dans un bureau. Personnellement, toutes les deux, c'est pas du tout dans notre caractère, mais c'est pas une généralité non plus.
Alors moi, j'ai été dans un bureau pendant 7 ans. Faut quand même le dire. J'étais dans une petite boîte, hein, donc ça fait la différence, et je m'éclatais et je développais déjà un projet. Donc ça m'avait parfaitement convenu. Donc le cycle CDI peut être hyper intéressant, et c'est toujours... Moi, j'aime bien toujours dire, c'est la bonne personne au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que là, effectivement, je suis en cycle entrepreneurial, j'adore. Finalement, avant, j'avais un CDI qui me permettait d'explorer et d'apprendre, parce qu'il y a cette notion d'enthousiasme, en fait. Est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on aime ce qu'on fait? J'ai pas quitté mon ancien job en me disant, je claque la porte, je déteste. J'adorais mes collègues, mon patron est la première personne qui est venue me voir quand je suis partie à Barcelone. Je bossais sur le sujet du développement durable, avec des gens intelligents et passionnants. Donc voilà, c'était juste que j'avais envie de faire autre chose. Et donc c'est ça, c'est se dire aussi, la vie, elle est cyclique. Vous avez le droit d'entreprendre, tu vois. Aujourd'hui, on est toutes les deux entrepreneuses, on se recroise dans 5 ans, on refait un podcast dans 5 ans, tu auras peut-être en parallèle un CDI, tu bosseras peut-être dans une ONG à New York. tu n'en as aucune idée, oui. En fait. C'est-à-dire qu'en France, on a une notion socio-culturelle du temps qui est très figée, parce que c'est comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça demain.
Et il faut prévoir, surtout, on a ce besoin de vouloir cadrer les choses et de les anticiper à tout prix pour laisser aucune place à l'inconnu.
Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens, moi, au tout démarrage, tu me demandais tout à l'heure la notion de comment j'ai fait. Moi, au démarrage, j'étais hyper angoissée parce que faire un business plan, moi, j'ai pas appris à faire ça quand j'étais jeune. Et je voyais tous mes copains qui faisaient des super business plans. Je me disais, oh là là, moi, je sais pas faire ça. Donc, il y a aussi cette notion de... Et je me disais, et c'est ce que j'ai dit à mon comptable, hein, si un jour, il pourrait vous le raconter, il m'a demandé mon business plan, je lui ai dit, mais je pourrais tirer les cartes, ça serait la même chose. Qu'est-ce que j'en sais de ce que ça va devenir, en fait? Je n'en avais aucune idée, en fait, au tout démarrage. Et c'était OK, parce que finalement, souvent, enfin, je pense que toi, tu peux le dire, la vie, quand tu laisses un peu de la place à l'inconnu...
C'est fou.
elle t'apporte des trucs que tu aurais même pas imaginé. Moi, je me suis retrouvée à intervenir d'égal à égal avec les gens qui, un jour, avaient été pour moi des rôles modèles, avaient été pour moi des exemples. Et en fait, tu te rends compte qu'un jour, t'es le rôle, tu vois, un jour, t'es celui qui admire l'autre, et puis le lendemain, t'es l'autre qui t'admire, et puis tu t'admires toujours des gens. En fait, c'est ça qui est marrant. Et la vie, c'est des opportunités en permanence. C'est juste qu'il faut. L'optimisme, c'est ça, c'est savoir se délester parfois de nos fardeaux, et se connaître, en fait. Se connaître en se disant, j'ai une opportunité, j'y vais, je tente, j'éduque les gens autour de moi, parce qu'il y a souvent de l'éducation à faire à l'entrepreneuriat, parce que quand on est dans des familles qui nous ont pas, qui ont été salariées pendant des années, ou l'inverse, de temps en temps, il y a des familles qui te disent, allez, va faire de l'entrepreneuriat, c'est trop cool. Mais attendez, non, enfin, moi avoir un CDI, de temps en temps, je me dis, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un CDI, c'est incroyable, t'as des vacances
payées.
Apprendre
à se connaître, c'est un vrai sujet, et d'autant plus quand on a 20 ans. Si vous avez quelques dernières questions, n'hésitez pas après. Parce que je vois qu'on a 40 minutes déjà. C'est vrai que se connaître, c'est très compliqué, d'autant plus quand on a 20 ans. Et du coup, j'aimerais revenir, faire le pont avec un sujet que tu as brièvement abordé tout à l'heure, et je veux absolument y revenir, qui est celui des relations amoureuses, donc le couple, où effectivement, quand on a 20 ans, qu'on est perdu et qu'on sent peut-être un peu ce vide existentiel à se dire « j'ai pas confiance en moi, je sais pas ce que je veux faire », on peut parfois tomber dans ces relations par défaut, on se le conscientise pas, mais à se dire, la personne va me sauver et je vais me connaître à travers cette personne-là et c'est cette personne qui va m'apporter ma confiance personnelle. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ces couples à 20 ans ? Alors oui, il y a des très beaux couples, mais comment on arrive à justement continuer à grandir individuellement sans tomber dans des relations qui vont essayer de sauver la personne qu'on n'a pas encore trouvée en nous, quoi ?
Alors, je ne sais pas si c'est très optimiste ce que je vais dire, mais à 35 ans, tu peux vivre exactement la même chose, ouais. Chercher dans l'autre une sorte de compensation. On en parlait justement en arrivant ici avec quelqu'un de l'équipe. Alors, il y a plusieurs axes là-dessus. La première, c'est que, je ne sais pas si on vous a fait lire, et si tu as lu d'ailleurs, « Petit guide de manipulation à l'usage des honnêtes gens ».
Je ne l'ai pas vu.
Tu ne l'as pas lu. C'est un livre très intéressant qui t'explique en fait que quand finalement... tu vois, tu veux sortir avec le mec, finalement, il n'est pas dispo, donc tu prends le pote. Ça peut arriver, hein, je pense que c'est... Et puis, un peu à défaut. Et puis après, finalement, tu es avec le pote, il perd son appart pour des raisons, donc vous habitez ensemble, puis tu veux le chat, puis il veut un chat, puis il veut des enfants, etc. Et tu te retrouves à 40 ans en te disant, mais finalement, en fait, au tout démarrage, c'était... Voilà. Mais tu t'es englué là-dedans. Et en fait, il y a la notion d'énergie que tu as mis là-dedans. Et c'est la même chose. Un autre parallèle, c'est qui fait très bien dans le livre, c'est t'es à la station de bus, tu vois que le bus n'arrive pas, quelqu'un de logique, tu lui dis ça fait 20 minutes que je l'attends, il va te dire va prendre le métro qui est à côté, mais tu dis non, j'ai investi déjà 20 minutes, moi je veux prendre le bus alors que t'irais plus vite avec le métro en fait. Et c'est un peu ça qui arrive souvent dans les notions de couple en se disant je me suis tellement battue, on a déjà tellement investi, je l'ai présenté à tout le monde, ça peut être très 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 difficile, mais on se connaît pas forcément. Et la vraie, je pense que quand on a 20 ans, le vrai enjeu, c'est de se dire qu'on s'explore en fait. On s'explore soi-même, on explore l'autre, on explore la sphère familiale, on explore la sphère amicale, parce que jusqu'à 20 ans, 25 ans finalement, les parents aussi ont beaucoup d'influence sur nous, on leur fait confiance en fait. Et il faut s'individualiser. Qui je suis, moi j'ai été obligée de partir en fait pour m'individualiser parce que je prenais tout le monde, de mon mec à mes parents, enfin tu sais, je prenais tout en permanence. Et en fait, ma seule façon, ça a été de partir. Ceci étant dit, se faire accompagner. À l'époque de ma génération, tu reviens ne serait-ce que 10 ans en arrière, il n'y avait pas autant d'informations sur Internet. C'était pas du tout bien vu, par exemple, d'aller voir un psy. Tout à l'heure, on parlait de la différence entre les US et la France. Limite aux US, c'est normal d'être coaché, en fait. Tu vois, alors il y a de tout évidemment dans le milieu du coaching, mais en fait, d'être accompagné, tous les leaders en France,
France, c'est signe de faiblesse.
Alors c'est signe de faiblesse, sauf au niveau, t'as pas un directeur qui n'a pas son psy, son machin, etc. Parce que dans les entrepreneurs, tu regardes les entrepreneurs, c'est des gens qui généralement ont des... alors, vous choisissez la personne qui vous correspond, mais plus tu commences tôt, plus t'arrives à te découvrir et moins tu vas avoir une désillusion. Mais aussi, il faut se dire, de toute façon, on vit des instants de vie, on vit des instants de joie, et c'est pas grave de rompre, de changer, de changer de compagnon, de compagne, et de se dire, on va explorer. Et c'était une belle belle histoire, on a beaucoup appris et c'est cette notion d'apprentissage. Mmh. En fait, c'est vrai que quand on est jeune, ben, on va se dire bon, ben, j'ai envie de quelqu'un qui est fort beau, par exemple, alors que tu crois que tu as envie de ça parce que c'est dans le cliché. En fait, non, tu as juste envie de quelqu'un qui te fasse marrer, par exemple. En fait, voilà, on a tous des besoins qui sont différents, mais oser les exprimer, mmh. en fait, c'est oser se connaître et suffisamment s'affirmer dans une société qui nous dit c'est ça la norme. Après, moi, je connais des gens qui sont en couple depuis 20 ans.
Ça marche très bien.
Alors généralement, ils sont passés par des cases psy, des cases parfois on fait des breaks, mais ça va très bien. Moi, j'ai des copains qui ne vivent pas ensemble. C'est-à-dire, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ça fait 20 ans qu'ils vivent pas ensemble et qu'ils disent ah, mais attends, regarde, nous on est encore ensemble, les autres ils sont plus ensemble. Ah. Alors qu'ils ont été vus comme les mauvais, ouais. enfin les trublions, en disant mais comment ça ils vivent pas ensemble alors que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, etc. etc. Donc c'est aussi ça, c'est savoir se connaître pour connaître ses besoins et parfois à un moment donné se dire ok, bon bah on a vécu une belle histoire et on change.
Trop cool. Est-ce qu'il y a une dernière question par hasard, peut-être sur un autre sujet complètement différent, que ce soit à moi ou à Catherine, pour terminer?
Je pense qu'on est parti déjà à 360.
Ouais,
hein, faut quand même.
Faut quand même trop bien, mais on est à 47 minutes, donc on va terminer ici, ce 100e épisode. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont là, et merci à toi, Catherine.
Bah merci Victoria, et puis on attend le 200e. Hein.
C'est promis.
Ah, c'est... Quel boulot, alors je tiens quand même à le dire parce qu'en étant aussi un peu dans l'envers du décor et en connaissant le boulot c'est colossal que d'aller interviewer la rigueur, parce que parfois on a aussi envie de prendre des vacances, faut anticiper. Donc bravo pour ce que tu as fait et bravo pour ton engagement, parce que de plus en plus tu parles d'authenticité, d'oser se découvrir, et je crois qu'à te suivre aussi sur les réseaux, on se rend compte que bah, tu commences de plus en plus à affirmer des positions, et ça c'est important, et c'est des actes courageux. Donc bravo à toi.
Merci beaucoup Catherine.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.